sommes heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International, émission produite par TV5 Monde, RFI, que nous réalisons chaque dimanche en liaison avec le quotidien Le Monde. C'est un invité peut-être peu connu du grand public que nous recevons aujourd'hui. Pour Michel Fouché, bonjour. Vous êtes géographe, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur, écrivain prolixe, et vous avez surtout une spécialité depuis une trentaine d'années bien particulière. Vous écrivez, vous faites des conférences, vous enseignez sur les frontières. Alors, la mondialisation et la globalisation semblaient avoir évincé cette notion de frontière qui revient en force dans l'actualité. Vous avez pu le voir avec ce qui se passe en Europe, avec le Brexit, avec la Hongrie et un peu partout dans le monde, jusqu'au mur de Trump à la frontière du Mexique qui appellera beaucoup de questions. Nous parlerons aussi du Proche-Orient. Une solution à deux États est-elle encore possible? Où serait la frontière? Bref, derrière cette question technique, beaucoup de questions que nous allons vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et avec Marc Semo du quotidien Le Monde. Alors, cette notion de frontière semblait un peu périmée, dépassée, pour tout dire un peu vintage. Elle revient en force. Elle garde une pertinence
périmée pour le petit club des Européens de l'Ouest et du Centre. Parce que partout ailleurs, il faut des visas pour venir chez nous. Il y a 160 États qui ont besoin de visas pour venir dans l'espace de libre circulation Schengen. À frontière...
Ça sert à quoi une frontière ?
C'est un périmètre qui délimite une souveraineté. Ici, c'est un pays et à côté, c'est un autre pays avec d'autres, une autre histoire, une autre langue, une autre tradition, d'autres intérêts.
Alors, mais il y avait une vision peut-être utopique ou utopiste. Ce sont les no borders, pas de frontières, un monde ouvert. Est-ce que ça, c'est une belle utopie ou un danger?
Une utopie dont on voit les conséquences aujourd'hui. Il est clair que ce qu'on a appelé la globalisation, c'est-à-dire économique et financière, visait évidemment, en abaissant les droits de douane au maximum, à faciliter la circulation de produits standardisés. Mmh. Et ça, c'est uniquement la dimension économique des choses. Et dans le cas de l'Union européenne, qui a poussé cette logique très très loin, dès qu'il y a des difficultés qui ne sont pas économiques et financières, des difficultés liées à la sécurité, liées à la politique russe, liées aux fameuses questions migratoires, on se rend compte que là, les économistes n'ont rien à dire et que ce sont des sujets régaliens. Ce sont des sujets qui supposent qu'il y ait des États. Donc le discours du sans-frontières, c'est un discours, en fait, le no-border d'extrême-gauche rejoint le no-border du néolibéralisme des banquiers new-yorkais, pas d'État, ou un État le plus discret possible. On n'est pas du tout dans cette configuration-là actuellement.
Sophie Malibaud.
Jusqu'où est-ce que vous diriez que la frontière, à l'échelle de la France, a été abolie ou pas?
La frontière n'a pas été abolie. Dans le cas de la France, c'est une construction qui dure 1200 ans à peu près, hein, la construction du territoire français. Hein. Et on continue d'ailleurs à échanger les parcelles avec le Luxembourg, l'Italie ou l'Espagne. Il y a encore des commissions des frontières en France. Hein. Bon, donc simplement, il y a une particularité dans l'espace européen, si vous voulez, c'est qu'on a transformé, c'est ça le message en fait, au-delà de la marchandise, les anciennes lignes de front, parce que front, frontière, en français, ça vient de front. Front, ligne de front. Ligne de front, frontier, frontière. On a transformé les vieilles lignes de front en frontières paisibles. On les a ouvertes. Enfin, c'est tout le miracle de cette réconciliation franco-allemande. Mais ça a été pendant des siècles, les rois de France ont lutté pour bouter les Anglais. Hors de France, c'est-à-dire pour transformer la Manche, qui était un chenal de communication pour le royaume des Plantagenets, en frontière. D'ailleurs, la frontière franco-anglaise, en fait, elle est du côté français, de facto. Elle n'est pas au milieu de la Manche, de facto, dans la pratique. Donc, on a une expérience de transformation de ces vieilles lignes de front dans le projet de l'Europe, un projet de paix. Aujourd'hui, on se trouve confronté à des questions de puissance. Quand on raisonne en termes de puissance, on a besoin de savoir si on va avoir une politique extérieure, où commence l'extérieur. Nous ne savons pas où commence l'extérieur en Europe.
Voilà. Justement, quelles sont aujourd'hui, quelles seraient, selon vous, la frontière de l'Europe? Est-ce que c'est pas finalement le problème aujourd'hui qui est peut-être la plus grande menace sur le projet européen? Est-ce qu'on y met l'Ukraine? Est-ce qu'on y met la Turquie? Est-ce qu'elle s'arrête avant? Est-ce que la frontière s'arrête, par exemple, comme on le disait à une époque, là où est la dernière abbaye cistercienne, c'est-à-dire une certaine idée d'une Europe du Moyen-Âge qui avait en commun une certaine culture? C'est où la frontière
la
de
l'Europe? La dernière abbaye cistercienne se trouvait au nord de l'Estonie, donc ils sont
absolument.
Du bon côté.
Absolument.
C'est une question absolument fondamentale. Projet européen, projet de paix. Donc, on ne pense pas le territoire. On ne parle dans les traités européens que d'espace. On ne parle jamais de territoire. On n'a jamais voulu poser la question des limites parce que c'était inscrire une espèce de finitude, c'était fermer la porte à des candidats, alors que l'attraction est là et la puissance de transformation démocratique est là. On le voit en Europe centrale malgré quelques difficultés. Donc aujourd'hui, on commence à se poser cette question-là. C'est fondamental parce que, encore une fois, on ne peut pas avoir de politique extérieure si on ne sait pas où commencer extérieur. On ne peut pas élargir à tout va, et on arrive un peu au bout du processus, on a besoin de se reprendre en quelque sorte. Et puis il y a une question centrale qui est le rapport à la Russie. La Russie elle-même est un État qui ne sait pas où sont ses frontières. C'est quelque chose de très très ancien ça dans l'histoire de la Russie. C'est un État territorial qui est peut-être en train de se transformer en État-nation. Et je voudrais citer une remarque de l'ancien président Václav Havel qui avait bien compris ça. Hein, c'est très court. Dans l'histoire, la Russie s'est étendue et rétractée. La plupart des conflits trouvent leur origine dans des querelles de frontières et dans la conquête ou la perte de territoire. Perte ou conquête de territoire. Le jour où nous conviendrons dans le calme, où termine l'Union européenne et où commence la Fédération de Russie, la moitié de la tension entre les deux disparaîtra. Nous en sommes exactement là.
Quelle serait la méthode quand vous dites il va falloir définir ça? Il y a un moment où vous pensez que...
La méthode, c'est de proposer autre chose aux Turcs que l'illusion d'une adhésion qui ne sera jamais approuvée par les peuples européens.
Bon, ils n'y croient plus vraiment.
Chez qui le référendum? Oui, mais on ne l'aura jamais dit clairement. Et transformer cette politique, créer ce qu'on appelle en diplomatie une politique turque, comme on a eu une politique arabe. Il faut avoir une politique russe.
Mais...
un statut de neutralité stratégique pour l'Ukraine, pour éviter de provoquer inutilement l'armée rouge, qui existe toujours.
Comment fait-on avec les faits accomplis? La Crimée, au stade où on en est, comment on fait avec la Crimée et les Russes?
Ce qui est intéressant dans le cas de la Crimée, qui est un problème en termes juridiques, c'est que le président Poutine, qui a été à Dresde de 1985 à 1989 pour observer avec effroi l'effondrement du système, ce qu'il reproche à Madame Merkel, c'est un double standard, en quelque sorte, c'est de ne pas avoir accepté l'annexion de l'Ukraine, alors que tout le monde s'est réjoui de ce que les Russes appellent l'annexion de l'ancienne République démocratique allemande par la République fédérale. Ce qu'on appelle, d'un terme pudique, la réunification. Mais en réalité, c'est le système de l'Ouest, heureusement d'ailleurs, qui s'impose. Or, Madame Merkel, elle a vécu dans Stasiland, et Poutine ne comprend pas cette difficulté-là. Donc la Crimée, je veux dire, c'est pas bien, c'est pas un problème absolument central. La question centrale, c'est l'Ukraine. Il faut trouver un statut de neutralité à l'Ukraine, de façon à calmer le jeu au plan stratégique.
Est-ce qu'il peut y avoir une frontière à l'intérieur de l'Ukraine?
Il y a pour l'instant une ligne de front.
Oui. Mais justement, est-ce que cette ligne de front peut se transformer en frontière avec deux Ukraines,
une européenne et l'autre russe? Il faut éviter ça. Malheureusement, nos collègues russes sont depuis toujours extrêmement habiles dans la manipulation de ce qu'on appelle les nationalités. Staline était commissaire aux nationalités, qui débouche sur des conflits plus ou moins gelés. Transnistrie pour empêcher les Moldaves de se réunifier avec la Roumanie. Le Nagorno-Karabakh, partout dans le Caucase. Donc c'est une méthode efficace, la méthode du conflit gelé. Et là, l'autre problème, c'est la capacité. Il n'y a pas d'État en Ukraine. Il y a 14 familles qui contrôlent le pays. Il faut que ce pays se réforme.
Alors justement, est-ce que le changement de frontière est nécessairement un mal? Il suffit de se rappeler que plus de la moitié des pays de l'Europe centrale et orientale qui ont adhéré après 2004 ne l'étaient pas avant 1989. Il y avait la République tchèque et la Slovaquie, il y avait...
Donc, si
est-ce que le problème n'est pas plus la façon dont se fait le changement de frontière que le changement de frontière en lui-même.
Inviolabilité et intangibilité, ce sont deux notions un peu compliquées. Alors
Est-ce que vous pouvez les préciser?
Une frontière internationale est inviolable parce qu'elle est garantie par le droit international, c'est l'objet d'un traité international, mais il peut y avoir des modifications de tracé si tout le monde est d'accord.
Ouais. Donc
Il peut y avoir des échanges de territoires. Alors c'est politiquement un peu difficile. Je rappelle quand même que dans le cadre du continent européen, depuis 1991, ont été créés plus de 25 000 kilomètres de frontières internationales nouvelles, du fait tout simplement de l'éclatement de trois fédérations asymétriques, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Union soviétique. Simplement, contrairement à ce que dit M. Poutine, c'est une décision dans le cas de l'Union soviétique qui a été prise de l'intérieur. C'est pas le résultat d'un complot occidental.
Mais Michel,
c'est
mais
une donc décision le, prise
le,
de l'intérieur.
Le problème pour la Crimée, donc, ça a été le fait que ça a été une annexion par la force après un référendum bidon sous le contrôle des soldats russes.
Après un acte qui n'est pas moins légal, qui est le don à la République d'Ukraine en 1954... par Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, ancien responsable de la répression contre les Koulaks en Ukraine même. Il essaie de se faire pardonner en donnant la Crimée à la République d'Ukraine. Mais autrefois, la Crimée a été grecque, pontique, elle a été tatare, elle a été sous influence ottomane, et puis elle a été russe pendant très très longtemps. Donc, Poutine est revenu sur la situation qui prévalait avant 1954.
Quel regard est-ce que vous portez, Michel Fouché, sur la façon dont les Européens de l'Ouest se débrouillent avec leurs frontières? Est-ce qu'il n'y a pas une série d'erreurs quand on pense, par exemple, à la question du Kosovo? Est-ce que l'État est viable? Est-ce qu'il
nous
fallait
avons,
le reconnaître?
Nous avons accepté, nous avons accepté ces éclatements d'État et nous avons accepté, malgré quelques réticences françaises, mais on avait contre nous d'autres puissances, une situation qui aboutit aujourd'hui à des entités qui ne sont pas viables. Et la preuve est telle que la plupart des actifs partent. Dans les convois de réfugiés vers l'Allemagne, il y avait autant de Kosovars que de Syriens en 2015. Et donc, les Bosniaques, c'est pareil. Qui peut prétendre que la Bosnie... Le seul point positif, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de massacre, il n'y a plus de crimes politiques. Donc, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Mais on a créé des entités pas viables alors qu'il y a une yougosphère. Il y a une ère culturelle et linguistique yougoslave. Même si la question nationale albanaise est, avec la question ukrainienne, la dernière question nationale de... Vous savez, on parlait des questions de nationalité au XIXe siècle. Elle reste posée. Et d'ailleurs, les Albanais d'Albanie veulent regrouper tout ça avec l'aide de la Turquie.
Michel Fouché, pour revenir dans l'actualité, on a parlé tout à l'heure de l'Europe et du Brexit. Il pourrait y avoir de nouvelles frontières. Je pense notamment à ce qui se passe avec l'Écosse, qui pourrait vouloir quitter le Royaume-Uni. Là aussi, on pourrait avoir des confettis ou des territoires.
Mais d'ailleurs, c'est assez...
Ou l'Irlande.
Parce que le comté qui se trouve au nord de Newcastle, au sud de ce qui reste du mur d'Adrien, s'appelle Border. C'est toute une zone vide, d'ailleurs, dans cette région-là. Oui, bien entendu, on pourrait revenir sur l'unification de 1709. Là aussi, il y a eu des mouvements. Alors, dans le cas de dans l'Irlande du Nord, c'est beaucoup plus dangereux, parce que si vous regardez bien la carte du Brexit, les circonscriptions protestantes et unionistes ont naturellement voté pour le Brexit. Et les circonscriptions catholiques ont voté pour le remain, c'est pour rester.
Bien sûr.
Et donc le risque là, c'est que au fond, l'adhésion du Royaume-Uni et de l'Irlande avait atténué la division de l'Irlande. Aujourd'hui, le thème de l'unification de l'Irlande comme réponse au Brexit revient, et les unionistes, c'est-à-dire les protestants d'origine écossaise proches de Londres, sont de plus en plus en minorité. Donc ça, c'est quand on se sent en insécurité, il y a un risque.
Alors prenons un exemple. La Catalogne proclame elle-même, autoproclame son indépendance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'Europe? Est-ce que l'Europe la reconnaît? Est-ce que l'Europe dit qu'il faut que cela se fasse en accord avec l'Espagne, donc avec un référendum en Catalogne, mais aussi un référendum général en Espagne? Qu'est-ce que doit faire l'Europe?
Un, il n'y a pas de majorité en Catalogne pour une indépendance.
Non, mais si.
Deuxièmement, il faudra qu'ils reprennent tout le processus d'adhésion. Et troisièmement, il n'y aura pas de reconnaissance unanime par les 27 ou 28, car l'Espagne est État membre, donc l'Espagne bloquera. Et ce type de processus, qui ne s'est jamais vu, suppose l'unanimité. Je rappelle qu'il y a quatre États qui ne reconnaissent pas le Kosovo indépendant. dont la Roumanie, la Slovaquie, c'est-à-dire les États qui ont des problèmes de minorité. Hein, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne et la Grèce. Donc c'est une impasse. Le discours des dirigeants catalans en disant on quitte l'Espagne et le lendemain matin on est à Bruxelles est un discours qui ne tient pas.
Mais celui des Écossais ne l'est pas parce que l'Angleterre
les Écossais sont en grave difficulté économique. Il y a plus de pétrole en mer du Nord et les prix sont très bas. L'Écosse actuelle n'a pas les moyens de son indépendance. Il n'y a pas de majorité en Écosse pour l'indépendance, contrairement à ce qu'on dit.
Il y a deux principes qui s'opposent, le principe des États viables et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Ce sont des contradictions bien connues, et donc ça dépend souvent des rapports de force.
Alors quand on parle des frontières, notamment en Europe, ce qui est particulier dans l'actualité, c'est qu'on voit l'édification de frontières agressives, des barbelés, rejeter l'autre. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, en tout cas dans l'Union européenne.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est nouveau. Non, malheureusement, c'est pas nouveau. Donc, ça rappelle de tragiques souvenirs. Mais c'est vrai que c'est une réaction de certains États d'Europe centrale qui ont une conception extrêmement ethnique de la nation et qui veulent, en quelque sorte, empêcher ces mouvements migratoires venus d'Orient proche. Alors, on peut invoquer l'attaque des armées ottomanes contre Vienne en 1683, etc. Mais c'est vrai que là aussi, c'est assez difficile pour nous à comprendre. Mais ces États d'Europe centrale, ils ont tenu le coup pendant la période soviétique parce qu'ils avaient une conception ethno-linguistique et parfois religieuse de la nation. Meilleur cas, c'est la Pologne. La nation polonaise a résisté à tout, à Staline et aussi à la disparition de l'État entre 1795 et 1919. Donc, ce qui a fait leur force et que nous avons salué nous pose aussi des problèmes, mais ce scénario de répartition des migrants, c'est une illusion bureaucratique bruxelloise.
Il y a un organisme qui s'appelle Frontex, qui est chargé de contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Est-ce que ça, c'est pertinent, avoir des frontières extérieures ?
Les accords de Schengen signés en catimini en 85, mis en œuvre à partir de 95 dans le cadre de 6 États étendus ensuite, d'où l'attractivité d'ailleurs de ce système sans frontières, prévoyait une surveillance des frontières extérieures. Ça n'a jamais été fait. L'une des raisons, c'est que j'ai calculé ça, le tracé de Schengen a déjà changé 8 fois. Donc si vous êtes dans un État dont votre voisin va entrer à son tour dans Schengen, pourquoi investir 2 ou 3 milliards d'euros pour créer une vraie frontière extérieure? C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, Frontex n'existe plus en tant que tel. C'est une agence de garde-frontière et de garde-côte. C'est-à-dire, face à la menace, il y a aujourd'hui quelque chose de sérieux qui se met en place pour aider l'État le plus faible, parce que c'est la pire frontière qui soit en termes de configuration géographique, c'est la frontière gréco-turque. En plus, c'est la pire qui soit en termes géopolitiques, puisqu'il n'y a aucune coopération entre les polices grecques et les polices turques. Marc le sait très bien. Et donc, c'est la pire qui soit. Et là, elle a besoin, en effet, les autorités grecques ont besoin de cet apport. Et puis maintenant, c'est aussi à la frontière qu'on fait du renseignement. Donc, on a besoin de consolider cette fonction d'informations sur ceux qui transitent, notamment ceux qui peuvent nous menacer et qui ont la citoyenneté d'un des États de l'Union européenne.
Mais on entend dans le discours politique, notamment de mouvements qualifiés de populistes, le retour du douanier à la frontière. Ça, c'est une image qui ne correspond plus à une réalité
possible.
Non,
parce que les échanges se font entre plateformes logistiques. Donc aujourd'hui, le rayon des douanes couvre l'ensemble des territoires, les plateformes industrielles de départ, les plateformes d'arrivée. Donc c'est vrai qu'il y a plus de douaniers à Roissy qu'à Strasbourg.
Évidemment. Michel Fouché, nous allons faire une pause sur les antennes de TV5 Monde et sur celles de RFI. Vous aurez un point d'actualité. On se retrouve dans 2 minutes exactement pour poursuivre d'autres régions du monde avec ce thème de frontières qui nous ramène directement à la géopolitique. À tout de suite. Retour à International où nous recevons Michel Fouché, géographe, diplomate, conférencier, enseignant sur le thème des frontières. Et nous voyons que cette question des frontières n'a rien de purement technique puisqu'elle nous ramène à la politique, à la géopolitique, à la diplomatie internationale et que ces frontières expliquent aussi un certain désordre du monde. Première question de cette deuxième partie, Sophie Malibaud.
Michel Fouché, la semaine passée, on a de nouveau assisté à une série d'attentats. On a eu Saint-Pétersbourg et puis on a eu Stockholm avec des terroristes présumés émanant de la filière ouzbek. Qu'est-ce que cela révèle des problèmes de l'émergence de ce mouvement ouzbek et...
C'est un mouvement extrêmement ancien, le MIO, le mouvement islamiste d'Ouzbékistan, qui est lié d'abord à des problèmes internes. Dans une région particulière qu'est la vallée de la Fergana, les configurations frontalières sont extrêmement compliquées. Elles datent en effet de l'époque stalinienne. Et donc, il y a des malaises internes très forts, notamment en Ouzbékistan. Et donc, ça s'est exprimé autrement depuis quelques années avec l'émergence de Daesh, c'est-à-dire la possibilité d'aller s'entraîner soit en Irak et en Syrie, soit même plus avant, comme pour les Ouïghours de l'ouest de la Chine, au Pakistan et en Afghanistan. Ça concerne un nombre important, ça se compte en plusieurs milliers, hein. Il y a non seulement 2000 Tchétchènes, mais du Caucase du Nord, mais il y a aussi 4 ou 5 000, sinon 6 000 personnes, dont un certain nombre sont en train de revenir, puisque l'aspect territorial, enfin Daesh est en train d'être liquidé dans sa dimension territoriale, mais il a anticipé en s'organisant en termes de réseau, avec des cibles, l'Asie centrale, le Pakistan et l'Afghanistan et le Bangladesh. Et donc, il s'est adapté à ça. La difficulté, c'est que, comme en Europe occidentale, celui de Saint-Pétersbourg avait la nationalité russe. Ne sais pas dans le cas de la Suède.
Sans être cynique dans cette lecture de l'actualité et sans pleurer l'Union soviétique, est-ce que ce grand ensemble, tenu avec l'autorité qu'on a connue à travers les premiers secrétaires, est-ce que ce n'est pas plus sûr, notamment pour les voisins, pour l'Europe, que cet émiettement qu'il y a eu avec ces différents États divisés par des frontières cette fois-ci?
Je ne sais pas s'il faut souhaiter de reconstituer l'Union soviétique.
Vous avez bien compris que je ne souhaite
pas. Personne ne le souhaite, même les dirigeants du Kremlin, mais il est clair qu'il y a un problème montant ancien mais montant de sécurité en Asie centrale qui intéresse la Russie, qui intéresse les États-Unis, qui intéresse les Chinois, les Indiens et les Européens. Simplement, vous savez, dans les médias, c'est comme dans la diplomatie, en général, on a du mal à traiter plus d'un dossier à la fois. Donc on se concentre, sur Daesh, peut-être à l'excès, à cause de sa capacité à manipuler les technologies modernes et nos systèmes de société ouverte. Et on a, en quelque sorte, délaissé cette problématique d'Asie centrale que nous connaissions quand même très bien pendant la présence militaire occidentale en Afghanistan.
Il y a une autre réalité. Regardons le continent africain. Pour l'essentiel, ces frontières proviennent de la décolonisation. On en voit tracer au cordeau de ces frontières. Est-ce que ce découpage postcolonial explique parfois les instabilités politiques ou les difficultés tout simplement?
Il y a eu au moment, en effet, au moment de la décolonisation, il y a eu quelques guerres. Maroc-Algérie, regardez ça, 1963. Il y a eu des tensions entre le Togo et le Ghana, plus récemment Érythrée, Éthiopie, les deux Soudans. Mais je voudrais rendre hommage à la sagesse des dirigeants africains de cette époque par la déclaration du Caire de juillet 1964, s'en sont tenus au principe d'intangibilité des frontières. Et d'autre part, l'ancien président malien, Alpha Omar Konaré, a lancé, à partir de 2007, dans le cadre de l'Union africaine, le programme frontière de l'Union africaine, animé par un brillant diplomate malien, ancien directeur des frontières et auditeur de RFI, qui a animé ce programme, encouragé par la coopération allemande, pour amener les États à démarquer leurs frontières une fois pour toutes. Alors ceci a des effets directs. Je vous donne le cas du Mali et du Burkina, puisque ça a commencé par là. Aujourd'hui, il y a des patrouilles militaires conjointes entre le Mali et le Burkina, puisqu'il y a eu des attentats récents dans le nord-ouest du Burkina, et la tentation, c'est évidemment d'aller se réfugier de l'autre côté. La frontière est une ressource pour les habitants au plan commercial, mais c'est aussi une ressource pour ceux qui ne veulent pas du bien. Et donc là, ce programme, dont j'espère qu'il continue, est tout à fait fondamental. Donc il y a une sorte de sagesse africaine. Il y a une vision, la frontière comme ressource, et non pas d'abord comme barrière.
Et Michel Fouché, ce qu'on voit, c'est que les terroristes pullulent dans ces endroits-là. Il y a eu la semaine dernière encore un soldat français mort, justement, pas loin de cette frontière.
Les pays d'Afrique de l'Ouest sont de très grands espaces. Le Mali, c'est 7246 kilomètres de frontière. Il y a des tensions très anciennes entre les parties, je dirais, strictement sahéliennes et les parties sahariennes. La question Touareg, la question arabe, ce sont des histoires extrêmement anciennes. Le Sahara n'est plus une frontière, c'est un lieu de passage et de trafic. Certains États au nord ont des politiques qui sont un peu confuses. Et là, nous payons la destruction du régime de Kadhafi. La Libye, avec tout ce qu'on peut en dire, était un bienfaiteur du pays du Sahel. C'était un pôle d'emploi pour la Tunisie, l'Égypte et les Sahéliens, notamment les Touaregs. Et ils investissaient beaucoup avec les idées d'États-Unis, du Sahara, enfin tout ce qu'on veut, peu importe. Aujourd'hui, on a perdu ce pôle de stabilité. Et donc, c'est l'armée française qui joue les gardes-frontières dans le nord du Niger, dans le nord du Mali, avec l'aide de la Mauritanie et du Tchad. On retrouve les méharistes. Aujourd'hui, on a des drones. C'est la même fonction de surveillance d'espaces qui sont beaucoup trop grands pour des États qui n'ont pas la volonté ou les moyens d'exercer leur fonction régalienne de base.
Mais est-ce que la France a vocation à rester dans cette situation ?
On n'a pas le choix.
Ça fait deux ans que les accords ont été conclus.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce qu'il faut, c'est former des armées africaines, c'est développer la coopération entre les armées africaines. Ça marche, le fameux G5 Sahel, ça prend énormément de temps. C'est un travail de longue haleine.
Il y a également des difficultés particulières liées au terrorisme entre le Nigeria et le Cameroun. Il y a Boko Haram. Et là, on voit qu'il y a une zone qui n'est pas contrôlée, où les frontières sont extrêmement poreuses. Comment est-ce que ces pays qui ne coopèrent pas entre eux peuvent-ils gérer cela ?
Dans le cas Nigeria-Cameroun, il y a des contentieux extrêmement anciens. Alors, les uns se sont réglés dans le golfe de Guinée parce qu'il y avait des intérêts pétroliers. Nord-ouest du Cameroun est un Cameroun anglophone qui a fait sécession et a choisi par référendum de faire partie du Cameroun actuel, mais il y a des relations de défiance. Et puis souvent, c'est dans les grands espaces, quand on peut pas contrôler un territoire, on décide de créer un parc naturel ou un parc régional. Ouais. C'est ce qui s'est passé, et c'est dans ces forêts-là que s'est installé Boko Haram. Donc là, on a besoin de coopération transfrontalière entre forces armées, notamment dans le bassin du lac Tchad.
Marc.
Alors, est-ce que vous diriez la même chose à propos des frontières et finalement de leur aspect aussi positif à propos du Moyen-Orient ? Parce qu'on avait vu que Daesh, au moment en 2014, au moment où il autoproclamait son califat, avait aussi proclamé l'abolition des frontières héritées de Sykes-Picot, de la Première Guerre mondiale. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces frontières au Moyen-Orient jouent un rôle positif ou que d'une manière ou d'une autre, vu la succession, vu ce chaos général d'État failli, d'une manière ou d'une autre, il faudra repenser quand même les frontières.
Oui, il y a toujours la tentation de croire que quand il y a un problème politique, il faut changer la configuration territoriale. Ce que vous évoquez sur Daesh avec la mise en scène par vidéo de la destruction physique de postes frontaliers entre l'Irak et la Syrie, c'est très intéressant parce que, au fond, ça nous ramène à l'histoire des frontières. Les frontières en Europe, les frontières linéaires, ont été inventées à la fin des guerres de religion, quand on a séparé en quelque sorte le domaine de César du domaine de Dieu. Daesh, c'est faire surplomber le domaine de César, ou en tout cas des califes, par le domaine de Dieu. C'est le retour à une religiosité, j'irais, médiévale, où il n'y aurait non seulement plus de séparation entre l'Église et l'État, entre la mosquée et l'État, mais il y aurait l'État serait surplombé par la mosquée. Et ça passe par la destruction des frontières. Or, ça montre bien que, historiquement, la frontière, c'est ce qui permet à un État souverain de protéger les croyants. Ça permet de les protéger. Et donc, cette démarche de Daesh renforce encore la nécessité. S'il n'y a pas de frontières, s'il n'y a plus d'État, et il n'y a plus de protection. Et d'ailleurs, ils passent leur temps à massacrer ceux qu'ils qualifient eux-mêmes de mécréants. Les frontières sont ce qu'elles sont. Elles ont été acceptées par les États. Même la Syrie a accepté de reconnaître l'indépendance du Liban. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a fait beaucoup de dégâts en vies humaines. Il n'y a que les Kurdes aujourd'hui qui remettent en cause, en Syrie et dans le nord de l'Irak, leurs frontières. C'est pas le cas en Turquie. C'est pas le cas en Iran. C'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est celui des régimes politiques.
Michel Pouget, si on reste au Proche-Orient, il y a la question palestinienne, Palestine et Israël. Avec ce qui était évoqué, la question à deux États, avec des frontières successives depuis 67, reconnues, non reconnues, il est encore possible d'avoir un État palestinien avec des frontières, avec une territorialité, compte tenu de la colonisation?
Alors, le diplomate vous dira qu'il faut s'en tenir à ce scénario des deux États, avec des garanties de sécurité naturellement pour Israël, mais le géographe vous dira que c'est de moins en moins probable.
Elle passerait où, la
frontière ? Parce que le jour où il y aurait un gouvernement américain suffisamment fort et indépendant pour imposer cette solution, on risque de ne plus avoir de territoire comme base de l'État. Comme base de l'État. Il y a déjà 600 000 Israéliens qui se trouvent dans ces fameux territoires, à l'est de la fameuse clôture de sécurité et à Jérusalem-Est. On est en train d'annexer la grande colonie de Mahalé Adoumine, en fait, qui est une ville nouvelle. Et on va annexer la zone C, c'est-à-dire 60% de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'en réalité, les partis au pouvoir aujourd'hui en Israël, le parti de M. Lieberman, le parti de M. Bennett, les partis religieux dans un système de proportionnel intégral, sont en train de profiter de la période de transition de l'équipe Trump et du flou qui entoure ses stratégies, s'il en a, pour avancer jusqu'au
dans
Jourdain.
Accompli, oui.
Le projet israélien, c'est de la Méditerranée au Jourdain. C'est vers ça qu'on va.
Donc,
ça, c'est une remarque de géographe.
Il n'y a plus de viabilité territoriale pour un État palestinien.
Il n'y aura plus que des enclaves. Je ne parle pas de Gaza, qui est une prison à ciel ouvert.
Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la dangerosité du pouvoir sous la main de Trump aux États-Unis?
Non, la question, mais bon, ça va progressivement se décanter par la force des réalités. Parce que America First, c'est bien gentil, mais les États-Unis, pour l'instant, sont une puissance mondiale qui ont des engagements, des alliances, des troupes partout dans le monde, des bases, des accords diplomatiques et des responsabilités et surtout des intérêts. Ce que M. Trump n'a jamais dit pendant sa campagne, c'est que la présence américaine en Europe était d'abord dans l'intérêt des États-Unis, avant d'être dans l'intérêt des alliés. Et ils vont découvrir ça progressivement. Non, ça prend un peu de temps de passer des propos simplificateurs de campagne à la réalité. D'ailleurs, c'est assez frappant parce qu'il a dit à plusieurs reprises « Ah, c'est plus compliqué que ce que je pensais ».
Ce qui est intéressant.
Ça, c'était pour la réforme de la santé. Mais aujourd'hui, c'est pour la géopolitique. La géopolitique, c'est drôlement plus compliqué qu'une campagne électorale simpliste.
Mais quand il décide d'annoncer des frappes en Syrie au moment où il reçoit son homologue chinois, ça n'est pas un hasard? Est-ce qu'il est en train d'apprendre quelque chose?
C'est-à-dire que cette attaque criminelle avec armes chimiques n'est pas liée à cette visite du président Xi, mais il a fait une synthèse. Et donc, la seule possibilité pour le président chinois, c'était de poursuivre la conversation dans une atmosphère plus calme, dans quelques temps, en Chine. Puisque la principale conclusion, c'est « Ah, on va être amis », donc on parle de conférence introductive, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas eu de conférence de presse, on ne sait pas ce qui s'est dit, sauf qu'il y a une amitié naissante, et la seule possibilité pour le président Xi, c'est de continuer la conversation, mais il n'y a pas eu de tension non plus.
Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est un message envoyé aussi de la part des Américains à l'égard de la Chine et peut-être de la Corée du Nord ?
Il ne faut pas trop sophistiquer tout ça, c'est une réaction un peu émotionnelle ou primesautière, mais qui a le mérite, en quelque sorte, d'obliger les autorités américaines parce que autour du président, il y a toute une série de groupes de décideurs.
Ça, c'est mouvant, d'ailleurs.
C'est nécessairement mouvant. Les réalistes sont en train de l'emporter face aux isolationnistes. Mais ça prend du temps. On ne revient pas à l'interventionnisme libéral, mais là, il y a eu une réaction et il faut qu'il y ait un suivi. Et connaissant le caractère du personnage, il voudra des résultats. Il voudra des résultats. Donc, je pense que, contrairement à ce qu'on dit, les Russes sont des gens pragmatiques, réalistes, qui ont le sens du rapport de force, et il ne faut pas s'en tenir au communiqué. La visite du secrétaire d'État la semaine prochaine à Moscou est maintenue, et naturellement, ils vont parler de ça. Mmh. Et au contraire, il peut y avoir une accélération de ce dont on a le plus besoin, c'est-à-dire un processus de négociation qui permette, un, d'arrêter les massacres de masse, et deux, d'imaginer des scénarios de solutions politiques.
Michel Fouché, on va en revenir à Trump. L'un des points forts de son programme, c'était de construire un mur à la frontière avec le Mexique, et de préférence de le faire payer aux Mexicains eux-mêmes. Oui. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça existe, une frontière étanche quelque part dans le monde?
En ce qui concerne les Mexicains qui achètent 16 milliards de dollars de produits agroalimentaires dans le Midwest, et notamment 2,5 milliards de maïs pour les tortillas, sont en train de négocier avec les Brésiliens et les Argentins pour se mettre en position de force. Donc les Mexicains ne paieront pas. Il y a déjà le tiers de la longue frontière qui est équipé de clôtures faites de matériaux de récupération des pistes d'atterrissage de la première guerre du Golfe dans le nord du Koweït et le sud de l'Irak. Il va en effet construire un mur en béton. Ça intéresse beaucoup de cimentiers, ça intéresse les entreprises d'électronique dont les cours d'ailleurs ont considérablement monté, mais je vais pas les citer. Il va le faire sur des parties désertiques de l'Arizona et du Texas, mais enfin, comme disait l'ancienne secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Madame Napolitano, on construit un mur ou une clôture de 5 mètres, et le passeur arrive avec une échelle de 5,10 mètres.
Ouais. C'est-à-dire qu'aucune frontière n'est étanche dans le monde.
Aucune frontière. L'histoire des frontières, je le dis toujours, c'est l'histoire de leur contournement. Ouais. Cela dit, c'est un peu stupide, cette affaire-là, parce qu'il n'y a pratiquement plus de migration illégale en provenance du mexicaine, en provenance du Mexique vers les États-Unis, parce que vous avez une situation de modification démographique, baisse de la fécondité considérable, et de l'emploi, y compris avec les entreprises américaines et internationales installées au Mexique. Donc il n'y a plus cette pression-là. Mais c'est un symbole qui est annoncé. La frontière est une scène, et on veut montrer qu'on est en charge de la sécurité. Il a malheureusement l'appui officiel des syndicats de garde-frontière. Il va falloir qu'il négocie son budget. La hausse du budget de défense de 54 milliards est en partie consacrée à la sécurité intérieure. C'est un geste. La question importante, c'est le sort des 11 millions de travailleurs latinos sans papier. Aujourd'hui, c'est plutôt les centra-américains qui passent, et puis les asiatiques.
Est-ce que vous diriez que les abus ou les exagérations de la mondialisation ont provoqué ces espèces de réflexes
de
fermeture?
Parce que l'homme ne vit pas que de pain. On a besoin de symboles, on a besoin de représentations, on a besoin de sécurité, on a besoin d'un État. Ce discours mondialisateur, né aux États-Unis et au Royaume-Uni d'ailleurs, aujourd'hui, quand Trump dénonce les déficits du commerce extérieur, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ce discours-là, les sociétés ont besoin non seulement de produits chinois dans les supermarchés parce que c'est moins cher, ça maintient le niveau de vie, mais aussi d'autres éléments de culture, d'identité, de sécurité, et donc en fait d'État et de structures collectives en charge de l'intérêt général et d'exercice des fonctions régaliennes. Donc ce retour des frontières, il s'inscrit, en fait, elles n'ont jamais disparu, ces frontières. Elles étaient devenues, comme j'ai pu le dire dans Le Monde, elles étaient devenues moins visibles. Mais elles ont toujours été là.
Il y a une autre zone du monde, je pense à l'Asie, où les frontières sont extrêmement contestées. On peut penser à certains îlots très revendiqués entre le Japon, la Chine, le Vietnam, un certain nombre de pays. Là, on peut avoir des ferments de tension.
Oui, bien sûr. Depuis 1947, depuis la partition de l'Empire des Indes, vous avez des tensions. Il y a eu 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan, et la stabilité n'est maintenue que parce que ces deux pays sont des puissances nucléaires. Hein. C'est très simple. Hein. Mm-hmm. Le nucléaire, c'est Vauban, hein. C'est la frontière de fer. Hein. C'est ça, le nucléaire. Ça permet de sanctuariser un territoire quand on ne peut pas contrôler une frontière. Donc là, vous avez des causes permanentes de tension dans le cas des Cachemires, qui se compliquent avec l'assèchement de certaines régions et la remise en cause possible par l'Inde du traité de partage des eaux de l'Indus, dans le Pendjab, les 5 rivières. Ensuite, l'Inde et la Chine ont des contentieux frontaliers au sud du Tibet et des Himalayas, la Chine ne reconnaît pas les frontières, et ça, ça ne changera jamais.
Ça c'est peut se régler stratégie. Par des conflits, ça.
Il y a eu une guerre sino-indienne en 62, de même qu'il y a eu, il y a des problèmes entre le Vietnam et le Cambodge, terrestre, il y a beaucoup de frontières maritimes qui sont contestées, Timor-Australie. Timor-Australie, dans le golfe de Thaïlande, et bien entendu, en mer de Chine méridionale, c'est une vieille affaire qui date aussi de 1947, où là, il y a une volonté chinoise qui est révisionniste d'afficher des droits historiques sans preuve, en réalité, qui n'est pas du tout conforme aux droits de la mer.
Est-ce que c'est pas dans cette zone-là qu'est le problème
Il y a des risques.
Et sachant que un navire américain, un porte-avions américain est en train de se diriger aux
ça c'est vers la péninsule coréenne.
D'accord.
Oui.
C'est loin. Hein. Tout ça
mais
est très, très loin.
De Chine.
Ce qui est clair, c'est que les États-Unis dans le monde sont une thalassocratie, c'est-à-dire qu'ils assurent la liberté des mers. Et l'argument américain qui tient, c'est que tous les flux commerciaux, la moitié du commerce mondial passe dans cette mer et dans le détroit de Malacca. Et on dit la septième flotte garantit en quelque sorte la prospérité, ce qui est vrai. La sécurité américaine a garanti la formidable croissance de l'Asie, y compris de la Chine. Simplement, pour la marine chinoise, c'est insupportable de ne pas pouvoir quitter les eaux vertes et les eaux peu profondes et d'aller dans les eaux bleues sans être intercepté par la 7e flotte des États-Unis. Donc là, il y a vraiment une cause de tension à cause de la montée en puissance de la Chine au plan géopolitique et surtout au plan stratégique. C'est l'histoire de la Kriegsmarine de Guillaume II face à la Royal Navy avant 1914. C'est le même scénario. Espérons que ça ne se terminera pas de la même façon.
Vous avez écrit l'obsession des frontières. C'est encore une obsession aujourd'hui de tous les peuples, de tous les États, de protéger des frontières, de les ériger.
C'est-à-dire que c'est un retour de balancier par rapport à un état antérieur où on avait, je dirais, eu le tort ou la naïveté de négliger toutes ces questions. C'est lié aussi au règne de l'économie réglant tous les problèmes. Et je crois que c'est un élément positif, non pas la frontière barrière, mais la frontière ligne de repère, périmètre de souveraineté, un des paramètres d'identité collective. Et dans le cas de l'Union européenne, c'est plutôt une bonne chose parce que nous allons enfin être obligé de commencer à penser à avoir une politique extérieure. C'est quand même quelque chose, dans le dernier rapport Schuman, qui vient de sortir, je dis, il faut passer du grand marché à la grande stratégie. La grande stratégie, c'est un concept des militaires américains, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Et ce qu'on demande aujourd'hui à l'Union européenne, c'est autre chose que le marché.
Vous avez l'impression qu'il y a la moindre progression vers une Europe de la défense, également?
Non. Il n'y a pas de progrès, mais il y a une évolution en Allemagne. Et j'espère qu'après les élections en France, la France sera de nouveau en capacité de mettre des idées neuves sur la table, car ça fait 10 ans que la France n'a pas émis la moindre idée sur les questions européennes qui intéresseraient les autres. Et nous pêchons là par omission. Il est temps qu'on reprenne notre capacité d'initiative.
Quel biais ?
Avec un dirigeant qui serait intéressé par les questions européennes.
Oui, justement, dans 15 jours, élection présidentielle en France, ce thème de l'international ou même de l'Europe est très absent des débats. C'est-à-dire que les campagnes électorales sont toujours focalisées sur les questions intérieures, domestiques.
Oui, mais ça, c'est la responsabilité. Je crois que c'est une erreur parce que ça intéresse les gens. Depuis 2 ou 3 ans, avec les attentats, les questions russes, etc. Si vous regardez les différents eurobaromètres qui ont l'avantage d'avoir une très longue durée de vie, parce qu'on en est au 84e ou 85e, vous apercevez que chez les citoyens européens, il y a une demande d'action commune. N'appelons pas ça européenne, mais d'action entre les différents gouvernements européens. Et il y en a quelques-uns qui sont capables d'avoir une politique, par exemple, au Moyen-Orient, ou d'en reprendre une. C'est l'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne.
On ne risque pas de regretter les Britanniques ? Aussi en partie.
Non, mais on a été en désaccord avec eux sur beaucoup de sujets. Défense, initiative en Syrie, ils étaient contre une action militaire, on soutenait pas le même camp en Libye, etc. Donc, les programmes industriels vont continuer. C'est plutôt eux qui vont se mordre les doigts. C'est pour ça que je parle toujours d'hypothèse du Brexit. Le Brexit n'est pas fait.
Merci, Michel Fouché, pour cette conclusion. En effet, les négociations démarrent. Merci de nous avoir éclairer sur l'état du monde à travers ce prisme particulier des frontières. Merci d'avoir été avec nous et excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde et excellente lecture du quotidien Le Monde, notre partenaire.
La radio du monde.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. And above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life for peace. And you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
Appelez-nous, exprimez-vous.